Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Merci d'avoir choisi BFM Business et d'être fidèle à Tech & Co. On est là chaque soir du lundi au jeudi 19h30 21h pour commenter l'actualité tech et essayer de décrypter tout ce monde qui va à une vitesse incroyable. On n'a pas encore beaucoup parlé d'IA, on va en parler dans quelques minutes avec notamment cette initiative albanaise, avec cette ministre albanaise qui est en fait une IA, c'est assez étonnant. Vous allez voir, c'est très intéressant, mais pour débuter, toujours avec Bruno Guglielminetti depuis le Québec, Tristan Nitto, évidemment sur ce plateau, et Enguerrand Renaud, je vous invite maintenant à parler de Ferrari. Ferrari qui a été chahuté en bourse, le titre termine en baisse de plus de 7%, parce que la marque de luxe italienne présentait hier son premier modèle 100% électrique. Mais la Luce, comme on dit, très attendue par les observateurs, n'a pas convaincu. Son design en particulier fait s'étrangler les fans de la marque et inquiète aussi les analystes. Justine Vasson nous raconte tout cela et après, bien évidemment, on en parle sur ce plateau.
4 portes, 5 places, des formes arrondies, un design minimaliste, la Luce, imaginée par deux anciens chefs du design d'Apple, fait perdre leur latin aux connaisseurs de Ferrari. L'extérieur du véhicule marque une rupture radicale avec le langage stylistique habituel de la marque, note prudemment les analystes d'Odo BHF. Chez Air Capital, on se dit perdu avec ce nouveau design. Sur les réseaux sociaux, cela va beaucoup plus loin. La Luce est tout simplement moche, selon de nombreux internautes. Certains pointe une ressemblance troublante entre l'extérieur de la voiture et celui d'une Nissan Leaf. Or, cette dernière, rappelle-t-il, coûte 35 000 dollars quand la Luce est affichée à 645 000. Autre problème, selon plusieurs spécialistes déjà rencontrés par Lamborghini, par exemple, celui du bruit du moteur à combustion, absent par définition. Ferrari a travaillé pendant 5 ans sur le son de son moteur électrique pour l'amplifier et offrir à ses conducteurs un semblant de rugissement, pas suffisant, semble-t-il, pour convaincre les puristes.
Voilà, Justine Vasson qui nous explique le lancement, on va dire, un petit peu chahuté de cette nouvelle Ferrari. Alors, on peut saluer l'initiative de Ferrari de passer à l'électrique. C'est un signe plutôt positif quand on sait qu'aujourd'hui, le prix des carburants augmente. Alors, vous allez me dire, si vous achetez une voiture à 500 000 euros, oui, finalement, un plein à 50 ou à 100 euros, c'est pas ça qui va vous changer la vie. Mais malgré tout, il fallait que Ferrari aille un petit peu dans le sens de l'histoire en lançant une voiture électrique. C'est le cas. Alors pourquoi on en parle au-delà des atermoiements divers? C'est que cette voiture, elle a été designée par un certain Jonathan Ive. Et Jonathan Ive, c'est le monsieur qui est derrière, on va dire, tous les produits emblématiques d'Apple. L'iPhone, bien sûr, les Mac, les premiers Mac. Mais aussi l'iPad, il a travaillé sur l'Apple Watch. Il l'a quitté Apple il y a quelques années de cela. D'ailleurs, un départ assez surprenant. Hein, on s'attendait pas à ce que Jonathan Ive, qui faisait partie véritablement de l'ADN d'Apple, s'en aille.
Toute l'ancienne garde qui finalement est partie.
Qui était très proche de Steve Jobs.
Ces dernières années.
Il était très proche de Steve Jobs. C'était un ami de Steve Jobs. Donc, il est parti. Il a créé sa boîte en Angleterre de design. Et donc, c'est lui qui est aux manettes du design de cette voiture. Et alors, c'est rigolo parce que sur les forums, et tous les fans, les puristes de Ferrari disent « c'est un scandale, cette voiture ne ressemble pas à une Ferrari, etc. Mais que se passe-t-il » Et puis d'un autre côté, il y a les fans d'Apple qui disent « waouh, mais est-ce que ça serait pas finalement un peu l'Apple Car qu'Apple n'a jamais sorti, cette Ferrari ?» Et c'est de ça dont je voulais vous parler ce soir, parce que c'est vrai que c'est assez intéressant de voir qu'il y a deux écoles et deux philosophies qui s'affrontent. Bruno, est-ce que tu as eu cette réflexion aussi quand tu as vu cette voiture et que tu t'es dit « Ah, il y a Jonathan Ive derrière quand même ».
Ben, moi, j'avais l'impression, au premier coup d'œil, là, j'avais l'impression de plus voir ce qu'aurait pu être l'Apple Car que ce qu'est une Ferrari. D'autant plus que quand on regarde la couleur qui a été choisie, un bleu comme ça, là, ça aurait pu coller à quelque chose qui venait de Cupertino. Mais je veux juste revenir sur le fait qu'il y a un an, moi, j'étais à Maranello, chez Ferrari, et justement, je leur parlais, évidemment, ils m'avaient pas dit qui était derrière ce projet-là, mais on parlait qu'on était en train de développer, que ça avançait bien, une voiture électrique Mais je vais demander, je dis, est-ce que ça va ressembler à ce qu'on connaît, mais ça va carburer, entre guillemets, à l'électrique? Puis on me disait, ben, on est vraiment en train de regarder toutes les tentatives. Puis finalement, un an plus tard, de voir ce modèle-là sortir. Puis je reviens encore sur le fait que le modèle qu'on utilise pour communiquer, mis à part cette vidéo qu'on voit à l'écran, c'est le modèle bleu. Ça n'a rien à voir avec la culture de Ferrari. Nous, on vient de passer une semaine dans le Grand Prix de Montréal. Quand on parle de Ferrari, c'est jaune ou c'est rouge. Mais oui. C'est jamais bleu, peu importe la teinte de bleu. Alors, c'est sûr que les puristes, quand on voit une bagnole comme ça, qu'on nous prête, je dis bagnole, ben, un peu de respect, là. Ce véhicule électrique qu'on présente, dans les grands reportages, il est toujours bleu. Et puis, heureusement, ils ont fait des vidéos où on voit quand même la voiture en rouge. Mais ultimement, on sent pas que c'est une Ferrari. Mais de l'autre côté, ceux qui, les fans d'Apple, ben, se disent, ça aurait pu ressembler à ça. Et c'est ça qu'on n'aura pas.
Enguerrand, on a tous été impressionnés par le design, enfin le designer Jonathan Ive qui a fait des produits mythiques. Hein, voilà, l'iPhone. Il travaillait aussi sur le ressenti du soft. En fait, il n'était pas que un designer de on va dire
matériel.
Matériel. Il donnait son avis aussi sur tout ce qui est logiciel. Il y a des petits raffinements technologiques d'ailleurs sur cette voiture Ferrari qui sont impressionnants, notamment la clé. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la clé, quand vous la posez au milieu de la Ferrari, il y a un écran carrément sur la clé. Qui se transforme en fait, le cheval disparaît, je crois. Enfin, il y a plein de petits, on va dire, de petits tours de magie design qui font que on se dit waouh, quand même, c'est cool. Et ça fait penser un peu aussi aux premiers émois qu'on a pu avoir avec les produits Apple.
Alors moi, je trouve que les critiques sont assez mal fondées. Elle est assez jolie cette voiture.
Tu en as commandé une d'ailleurs, je
oui,
crois.
Deux,
oui, c'est vrai.
Une jaune.
Oui.
Et une rouge.
Ah ben voilà, comme ça au moins.
Comme disait mon ami Bruno.
Dans ton garage de 1000 mètres carrés, il n'y aura pas de problème.
Donc j'en ai commandé deux. effectivement.
Satellifax, ça marche, hein.
Ouais. Effectivement, quand on commande une Ferrari, c'est statutaire, d'accord. Il faut le bruit, et il faut que ce soit reconnaissable par tout le monde dans la
rue. On va en parler du bruit, tiens.
Quand on met autant d'argent. Moi, je la trouve plutôt belle. L'arrière rappelle véritablement Ferrari. L'avant, bon, c'est plus innovant. C'est à mon avis très bien qu'ils aient fait appel à Johnny Ive. Le vrai sujet derrière, c'est peut-on avoir une Ferrari électrique? Lamborghini s'y était mis avant et il est revenu, parce qu'une Lamborghini électrique, c'est aussi compliqué. Porsche avait beaucoup insisté, a mis beaucoup d'argent dans l'électrique, et avec les résultats qui ont été assez mauvais. Porsche, pour une fois, a eu des grosses difficultés financières. C'est assez bizarre parce que le marché de la voiture va vers l'électrique, mais le très haut de gamme comme ça,
oui,
c'est très difficile de faire accepter par les puristes que c'est électrique. Or, les performances, quand on est dans une voiture électrique, effectivement, si on recherche l'accélération et la performance, ça va beaucoup plus vite qu'une
voiture thermique.
Atmosphérique, hein.
Bien sûr, c'est clair.
C'est clair. Donc, on s'y fera. Je pense qu'on...
On s'y fera. Oh, d'accord. Tristan, tu vas t'y faire ou pas?
Je suis jamais monté dans une Ferrari de ma vie, donc je peux pas te faire une expérience avant-après. Je me mets à la place des équipes de Ferrari qui sont quand même qui doivent sortir un tour de magie, un truc un peu compliqué, parce qu'ils ont en fait une clientèle un peu comme chez Harley Davidson aussi. Je suis motard, et c'est des gens qui ont pas envie de changer. Non. Ils ont les idées très précises, donc ça doit être
le
rouge,
moteur doit
être peut-être jaune si vraiment on
ouais voilà
faire,
et quoi, encore mais... attention au jaune quoi.
et le moteur et l'architecture, donc c'est évident que c'est un moteur thermique, etc. mais c'est pas le sens de l'histoire, donc il fallait un moteur électrique. Mais là, on forcément, enfin, même s'il avait fait, si c'était parfaitement réussi, il y aurait forcément eu des gens qui seront très vocaux en disant c'est pas une Ferrari parce que c'est électrique.
Oui.
Et je comprends bien le truc, mais pour avoir essayé des véhicules électriques, en l'occurrence,
il y a une Harley qui est sortie électrique, je crois.
Oui, j'ai pas pu essayer. Moi, j'ai essayé des Zero Engineering et c'est fabuleux.
Ouais.
C'est vraiment enfin, en termes d'accélération, j'ai pas pu accélérer à fond. J'ai crié dans mon casque et j'ai coupé avant la fin, quoi. J'ai essayé de tourner la poignée. Donc, c'est, enfin, il y a pas de problème. C'est mieux en termes d'accélération.
Peut-être pas autant d'autonomie, c'est ça qui est embêtant.
L'autonomie, est un problème, mais en fait, si on s'en sert au quotidien, ce qui n'est pas l'usage d'un Ferrari, je reconnais, mais, au quotidien, l'électrique, c'est top, tant que t'as pas besoin de faire 250 km, ou 500 km, ou 800 km, ce qui est finalement, très rare. Donc, c'est vraiment super l'électrique, mais il n'y a pas cette magie du chant, et aussi bien chez Harley-Davidson que chez Ferrari, de ce son qu'on attend, qui est envoûtant, qui est excitant. Les Japonais aussi, avec des 4 cylindres, ont le même genre de problématique. C'est comment est-ce qu'on fait quelque chose qui suscite de l'émotion. Et ben, on a été élevé avec le thermique, et les futurs propriétaires de Ferrari, etc. aussi, et s'attendent à cette sensation du moteur hurlant et qui disparaît forcément.
C'est toute la difficulté quand t'es né avec le moteur thermique, hein, et t'étais dans l'exception. Et là, si tu vas dans l'électrique, bah t'es à peu près avec tous les autres. Les performances sont quasiment identiques. Je veux dire, tu conduis une voiture électrique, ça va très très vite tout de suite, quoi.
Bruno,
c'est évident.
Bruno.
Ouais, François, on parle beaucoup de Ferrari, de l'image, mais il y a aussi l'interface, l'expérience utilisateur qui est intéressante. J'écoutais une entrevue avec Johnny Ive un petit peu plus tôt aujourd'hui, et ce qu'il a voulu faire aussi, c'était revoir l'interface pour, j'allais dire, le pilote, celui qui a défrayé le coût de la voiture, parce que lui, il en a contre le contrôle tactile dans les nouvelles voitures électriques. Il dit que c'est une aberration, et donc il a voulu revoir ça. Évidemment, on verra avec l'expérience des premiers acheteurs qui ont ça, mais on joue sur la voie, on revient avec des choses qui sont plus classiques. Et ça va être intéressant. Et j'avoue que quand j'ai regardé l'intérieur et j'ai entendu cette entrevue-là avec lui, je pensais au nouveau produit qu'il est en train de développer pour les gens d'OpenAI, parce que ça aussi, ça va passer par l'œil de la critique. Ouais. Il est en train de créer un nouvel objet. Certains parlent d'un téléphone, certains parlent d'un pendentif, qui va permettre de communiquer, de faire des choses merveilleuses. Alors, si on prend l'exemple de la Ferrari qu'il livre aujourd'hui, et puis qu'on essaie de pousser le concept à un objet de communication pour OpenAI, moi j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Mais c'est sûr que dans les grandes lignes, j'avais plus l'impression de voir un Apple Car qu'une Ferrari quand j'ai vu ça en image aujourd'hui.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette voiture, quand elle accélère, elle a un bruit. Mais elle n'imite pas le bruit d'un moteur thermique, parce que Ferrari s'est dit, ça va faire trop cheap et c'est pas... partir.
J'ai essayé une Golf avec un faux bruit de moteur. C'était vraiment à pleurer, quoi.
Là, je pense que les fans de Ferrari se suicident sur le bitume, quoi, s'ils entendent ça. Donc, ils se sont dit, on va essayer d'amplifier le bruit d'un moteur électrique. Ils sont partis d'une page blanche et... Il paraît que quand on accélère, on a un peu comme le bruit d'une guitare électrique, quoi. C'est un truc assez étonnant. Non, on n'a pas, malheureusement. Non.
J'adorerais écouter. Je l'ai pas écouté avant, donc je peux pas dire. Mais le bruit pour une Ferrari, c'est effectivement.
Bon, en tout cas, voilà, ça fait
une partie du prix.
Ça fait une partie du prix, et puis ça fait jaser, cette histoire-là. Donc, on verra bien si c'est un succès ou pas. Dans l'actu, on reste sur le monde du véhicule, mais cette fois-ci, on va s'intéresser à Waymo. Waymo, vous le savez, ce sont ces véhicules autonomes qui, aux États-Unis, servent de taxi. Hein, c'est devenu, on va dire, assez banal, finalement, de commander sur son appli Waymo, sur son Android ou sur son iPhone, un Waymo, et donc là, quelques minutes après, vous avez votre voiture qui arrive, il n'y a pas de conducteur, vous avez votre nom qui s'affiche en fait en haut du véhicule, c'est assez drôle, comme ça vous êtes sûr que c'est votre voiture, vous montez dedans, et puis c'est parti, voilà, vous pilotez tous les services de confort, vous pouvez monter la température, la baisser, choisir votre playlist, c'est vachement impressionnant, et c'est très agréable, bien sûr, et Waymo marche bien, mais parfois ça marche moins bien. C'est ça un peu l'actu de ce soir, c'est que en fait il y a pas mal de, on va dire, de contraintes climatiques qui font que ben ça marche pas. Par exemple, quand il y a une inondation sur la route, là les Waymo elles font comme ça quoi. Elles disent stop les gars, je sais plus trop comment ça marche. Tu as suivi un petit peu cette actu, Bruno?
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, des problèmes qui avaient été publicisés par les usagers de Waymo, c'est notamment justement la façon des véhicules de gérer l'abondance de l'eau sur les autoroutes. Parce que plutôt que de ralentir, ce qui est le bon sens et ce qui d'ailleurs, ce qui est recommandé par les autorités qui gèrent le dossier des automobiles sur les grandes voies, ben la Waymo, elle a gardé la même vitesse, puis de temps en temps, elle accélérait. Alors évidemment, là, il y a des lumières rouges qui ont commencé à allumer ici et là dans les...
Oui, les ABS, tous les systèmes de tenue de route, en fait. Ouais, ouais.
Exactement. Et là, à partir de ce moment-là, il y a eu des signalements qui ont été faits aux autorités, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à se dire, ben, il y a peut-être un problème par rapport à... Bon, ben, en Californie, ça peut aller, ou au Nevada, ça peut aller, où il fait très beau la plupart du temps. Mais quand on commence à offrir ce service-là à Austin ou à Miami, ou puis là, on est en train d'aller ailleurs, je pense à New York, on est en train de faire des tests, ou à Londres, ou à Tokyo, ben là, on commence à avoir la météo qui n'est pas nécessairement la même chose. Alors, il faut qu'ils revoient. Et là, il y a une énorme mise à jour du logiciel qui va être fait pour essayer de donner un peu plus de bon sens à ce véhicule-là.
Oui, parce que je vous rappelle qu'à Londres, il pleut plus que
qu'en Californie.
À San Francisco. Donc, il ne faudrait pas que la Waymo soit quand même un peu perturbée, non? Tu voulais dire quoi sujet?
Vous avez ce qui a été signalé, c'est effectivement la conduite de la Waymo sous la pluie, et puis le fait qu'ils étaient un petit peu perdus par les travaux. À un moment, ils prenaient des chemins, ils recalculaient les chemins qui faisaient que ça prenait des heures et des heures et des heures, et que finalement le transport n'était pas très 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 sympathique. Donc il y a eu quelques plaintes. Effectivement, il va y avoir une mise à jour. La vraie difficulté, la vraie question, c'est quand est-ce que ça va arriver en Europe? Ça doit arriver à Londres, au début. Effectivement, je me disais, si c'était arrivé à Paris pendant tous les travaux avant les JO de 2024, la Waymo aurait été totalement perdue.
Ah oui, alors là...
Elle aurait été perdue.
Complètement perdue. Elle aurait terminé dans la Seine.
Elle aurait terminé dans la Seine.
Bruno.
Et après, Tristan. En tête qu'elle évolue rapidement. Hein, oui, parce que souvenez-vous, quand la Waymo est sortie, dans les premiers mois, la façon de protester par rapport à l'arrivée de cette voiture autonome, c'était d'aller mettre un cône orange devant le véhicule arrêtait. Avec le temps, et les ingénieurs ont travaillé, et la Waymo était capable de passer à côté du cône. Mais elle a encore beaucoup de difficultés à gérer les zones de travaux, et c'est pour ça qu'on veut encore bonifier là, sa réflexion par rapport à ce contexte là, de lieux en construction ou en rénovation sur les routes.
En fait, ça reste une information un peu légère tant qu'il n'y a pas eu d'accident grave. Et c'est le cas, visiblement. Il y a eu, on a constaté des choses qui n'étaient pas, on va dire, logiques et normales, mais malgré tout, il n'y a pas eu d'accident ou de drame. Donc, après, on se dit, finalement, ces voitures-là, elles ont des mises à jour perpétuelles. C'est un peu comme nos téléphones, où on comble, des failles de sécurité, on corrige des trucs qui marchent moins bien, etc., etc.
Et puis, une acquisition des données, quand elles sont utilisées, ils apprennent des nouvelles situations. Et c'est en fait une bonne partie du métier de Waymo, c'est de gérer de la big data pour améliorer leurs algorithmes sur la base de l'accumulation de données. Donc plus il y en a qui roulent, mieux ça se passe quoi. Bon, évidemment, il faut apprendre à gérer les inondations, les travaux.
Exactement. Bon,
ça va venir.
Et donc tu le disais, Bruno, hein, Waymo va arriver bientôt. En Europe, non, on va commencer par Londres. Ah. Et je crois que d'autres villes européennes vont être déployées. Il était temps parce que Waymo commence véritablement à s'installer aux États-Unis. Et c'est vraiment
ça
très sympa.
C'est bien qu'il les fasse moins moche quand même. Hein. Enfin, j'espère que ça viendra un jour, mais là.
Ouais, c'est vrai que c'est un gros bébé la voiture. Elle est pas, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Ouais. On pourrait demander à Ferrari, tiens.
Waymo Ferrari. Allô, Johnny Ive.
Voilà, Johnny Ive, design-nous une belle Waymo, s'il te plaît. On enchaîne avec cette info assez étonnante. On part en Albanie, si vous le voulez bien. La Cour constitutionnelle doit se prononcer sur le sort de la ministre chargée de limiter la corruption. Alors, elle s'appelle Diela. Et c'est une intelligence artificielle. C'est pas un humain. Non, non, non. C'est une IA. Une première mondiale au poste de ministre. Mais depuis son entrée en fonction, c'était en septembre dernier, on en avait parlé d'ailleurs dans Tech & Co.
Ouais.
Elle est vivement critiquée par l'opposition au Parlement. Paul Waller nous explique cette histoire cocasse et on revient juste après.
Un ministre doit forcément être une personne physique pour l'opposition albanaise. Elle estime que la nomination de Diela est inconstitutionnelle. La ministre albanaise générée par IA leur répond.
Certains m'ont qualifié d'anticonstitutionnel parce que je ne suis pas un être humain. Cela m'a blessé, mais pas pour moi-même, mais pour les 972 000 interactions que j'ai eues avec les citoyens et dont j'étais au service dans le cadre d'Albania, et aussi par rapport à 36 000 documents numériques que je leur ai délivrés. Je ne suis pas ici pour remplacer les humains, mais pour les aider.
L'intérêt d'installer une IA au poste de ministre anticorruption était de préserver les marchés publics de tout conflit d'intérêts, selon l'exécutif albanais. L'opposition dénonce, elle, un coup de com' et un manque de transparence du fonctionnement de l'outil. En janvier dernier, la justice albanaise a placé deux concepteurs de Diela en résidence surveillée. Elle les soupçonne de corruption en lien avec un groupe criminel.
Alors bon, il y a pas mal de trucs à dire là-dessus, parce que c'est vrai qu'en Albanie, il y a un peu de corruption, on va dire. Et c'est vrai que dès qu'on arrive à un poste important, ça peut être tentant. Et je trouve que l'idée de départ de se dire, on va mettre une IA pour un poste sensible, justement pour limiter la corruption, c'était plutôt intéressant. En tous les cas, comme une, on va dire, une expérience. Voilà. Mais donc là, visiblement, il y a le parti qui est un peu opposant hein, au gouvernement, qui monte un peu au créneau. Bruno, qu'est-ce que tu en penses de cette ministre gérée par l'IA?
Ouais. Ben, ce que je trouve intéressant dans cette histoire-là, pour l'avoir couvert ben, un peu comme vous autres dès le départ, c'est que la Cour constitutionnelle albanaise là va devoir trancher. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut utiliser cet outil-là pour offrir du service aux citoyens en ligne, ce qu'elle fait très bien et tout le monde, personne se plaignait, ou est-ce que on peut l'amener dans l'arène politique et lui donner un statut de ministre et de prendre des décisions qui vont avoir une influence sur l'avenir du pays. Et ça, il y a comme un pas important. On a déjà vu des IA qui deviennent PDG d'une entreprise, sauf que de l'autre côté, le conseil d'administration et le président du conseil d'administration sont hyper puissants et ont presque les mains sur le guidon pour orienter l'entreprise. Mais là, dans ce cas-là, on se dit ben tout un ministère qui serait sous les guérites de cette IA-là, c'est une chose. Mais parallèlement, puis ça, je l'ai pas entendu dans le topo, mais parallèlement dans cette histoire-là, ce qui est amusant, c'est que l'actrice qui a donné son visage et la voix à ce personnage virtuel, à cet avatar, même elle n'est pas d'accord avec l'utilisation du fait que dans son contrat, quand elle a signé son image, sa voix, elle a dit que c'était uniquement pour être un assistant en ligne, pour servir les citoyens, mais que jamais elle aurait accepté si cet outil-là, elle savait que ça allait finir dans l'arène politique. Alors même de ce côté-là, c'est, peu importe le verdict qu'ils vont avoir, les créateurs de cet avatar-là, de cet IA-là, vont devoir régler un problème avec la représentation humaine de cet outil-là.
Voilà, on évoque tous les soirs dans Tech & Co l'impact de l'IA dans tous les secteurs et même dans le secteur politique, on va dire, et gouvernemental, ça va avoir un impact. Tristan, qu'est-ce que tu en penses?
Mais je pense qu'il faut pas prendre les gens pour des imbéciles et que en fait dire que une IA est ministre, pour moi c'est n'importe quoi. Ça veut pas dire que l'IA peut pas être utile dans les relations avec les citoyens, les aider.
Ou aider certains gouvernements peut-être de manière.
Oui, éventuellement, ouais. Pourquoi pas, mais l'idée qu'elle soit ministre, c'est n'importe quoi. Déjà, une IA, c'est du logiciel, c'est pas une personne. Donc, on a déjà ce gros défaut et qui est exploité par les fabricants d'IA, qui est l'anthropomorphisme anthropomorphisme, c'est-à-dire cette tendance à considérer que c'est des humains et ils utilisent ça pour séduire avec les produits. Enfin, on se tutoie, on peut l'interroger sur ses sentiments, etc. Alors que c'est juste du logiciel. Donc là, c'est gênant. Mais bon, c'est des gens, ils sont là pour vendre leurs produits, donc bon, je comprends qu'ils soient prêts à tirer toutes les ficelles, mais que un gouvernement fasse ça, je trouve ça irrespectueux vis-à-vis des citoyens. Ce qui ne veut pas dire que l'IA est inintéressante dans
Moi, ce que je trouve, des affaires. Ce que je trouve intéressant, c'est que pour ne pas en fait céder à la tentation de la corruption, parce qu'en fait, elle était là pour ça. Hein. Je crois qu'elle elle réglait des problèmes. Enfin, elle réglait des problèmes de contrat, etc. Qui aurait pu être, on va dire, contaminé par la corruption. Et le fait d'avoir une IA, au-delà qu'elle soit ministre ou non, finalement, c'était de dire à tous les responsables, c'est pas moi qui décide, c'est l'IA qui va trancher et qui va donner tel marché à telle boîte, etc. En fait.
Ce qui est
sans corruption,
ce qui est abyssal dans le reportage que vous avez diffusé, c'est plusieurs choses. Un, déjà, c'était une soi-disant ministre anticorruption, et j'ai entendu, je ne le savais pas, que les concepteurs eux-mêmes sont en taule parce que ils sont soupçonnés de corruption. Donc déjà
en résidence surveillée.
Voilà. Et bon, c'est déjà un peu compliqué. Ce que disait Tristan, c'est très vrai. Là, il va y avoir une décision, et ça, c'est à mon avis extrêmement important, une décision constitutionnelle sur l'IA peut-elle être considérée comme une personne. Effectivement, on passe d'un logiciel et qui résout des problèmes, mais comme beaucoup d'administrations à travers le monde, hein. C'est pas ça. Et là, l'IA est dans son rôle, c'est-à-dire qui résout des problèmes, et quand elle dit j'ai X milliers d'interactions, oui, j'ai résolu des problèmes, c'est ce qu'on demande à l'IA. On lui demande pas de devenir une personne. Et dans le reportage, là, elle se défend en disant j'ai été blessée. Alors si une IA commence à être blessée ou vexée, si on lui prête des sentiments humains,
et qu'on l'humanise en quelque sorte.
Et qu'on l'humanise. Et là, il va y avoir une décision constitutionnelle qui va dire non, l'IA, je ne sais pas ce qu'elle veut dire, mais l'IA, à mon humble avis, devrait rester un outil. On va pas prêter à la fois des sentiments, un visage et une qualité anticorruption à quelque chose qui n'est effectivement que du logiciel. Ça paraît poser des vraies questions.
Ouais.
Alors que, en fait, il y a, la corruption, c'est un problème qu'on retrouve partout, qui est plus ou moins contrôlé. Il y a des méthodes pour lutter contre ça, des vérifications, des procédures, etc. Il n'y a pas de raison que ça s'applique pas à l'Albanie, quoi.
Mais bientôt, quand on aura un parquet anticorruption fait d'IA qui devra dire si une ministre est corrompue ou non,
on arrivera dans
un monde nouveau.
Et ben voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Bruno. À très vite. Bruno
Minetti,
journaliste animateur de son carnet de l'actualité numérique. Merci à Tristan Nito, directeur associé Commun Numérique et Anthropocène chez Auto Technologies. Et merci aussi à Enguerrand Renaud, directeur de la rédaction de Satellifact. Et à très vite, messieurs. Allez.